C'est bien. Ça, c'est notre bâtiment. Qui sont ceux qui nous voient pour la première fois? Levez la main. Beaucoup de gens. Ben bien. C'est Brigitte et moi, Denis. Ça fait 26 ans, 27 ans qu'on est à Sept-Îles. Avant, on allait à l'église baptiste évangélique de l'île Jésus, à Laval, qui s'appelait dans le temps l'église de Chomédé. Et Dieu nous a appelés à le servir à Sept-Îles, parmi la nation Innu, une des 11 nations autochtones au Québec. Mes ancêtres à moi, du côté maternel, viennent de Maniwaki. J'ai mon arrière-grand-mère qui est née ici, et aussi du côté paternel, les Maisonneuves viennent de Angers, l'ange gardien. Donc, je suis chez moi. Vraiment. C'est vraiment ma terre à moi. Et j'ai peut-être des ancêtres qui ont viroyé dans Buckingham ou à d'autres villages autour. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Donc, ça, c'est notre bâtiment d'église. Chemin Tokoshino et Emiuchwap, qui veut dire vous êtes bienvenus à l'église. Emiuchwap, c'est l'église. Mamou, ensemble. Tiché Manitou, on va adorer le Seigneur, Dieu. Tiché Manitou, qui est le Dieu, qui est Dieu. Ce matin, j'ai un message. Le temps presse, semez. Et merci de nous accueillir ce matin encore une fois. Merci pour votre soutien dans la prière. Merci pour votre soutien financier, vous êtes vraiment généreux. J'ai un verset aussi ce matin dans Jérémie. C'est mon verset préféré quand je me suis converti en 1979. J'ai lu le Nouveau Testament trois fois, deux, trois fois. Quand je terminais le Nouveau Testament, je recommençais le Nouveau Testament. Puis là, je me suis dit, il faudrait bien que je lise l'Ancien Testament. J'ai commencé à lire l'Ancien Testament, c'était vraiment différent du Nouveau Testament, surtout dans Lévitique. J'ai resté surpris, waouh, plein de règlements, plein de. Mais quand je suis arrivé dans ce verset-là, dans Jérémie, j'ai dit, waouh, ça c'est moi, c'est vraiment moi. Si je dis, c'est impossible de dire ça pour un chrétien, ça là. Mais si je dis, je ne ferai plus mention de lui, c'est impossible de dire ça pour un chrétien. Mais si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os. Je me fatigue à le contenir. Et je ne le puis. Pour un chrétien, c'est impossible de dire ça. Il y a quelque chose en dedans de nous qui nous pousse à parler. Jésus dit, s'ils se taisent, les chrétiens, les pierres crieront. Évidemment, une pierre, ça crie pas. Même quand on met un bâton de dynamite dedans. Une pierre, ça crie pas, mais c'est un langage imagé que Jésus a pris pour dire qu'un chrétien, c'est impossible que ça parle pas. Évidemment, on n'est pas tous des Billy Graham, mais à quelque part, on peut dire quelque chose selon la capacité que Dieu nous donne. Donc, c'est mon verset préféré dans Jérémie. Moi qui, avant ma conversion, étais un athée solide. Un pur athée. Jamais, jamais, j'ai eu l'ombre d'un soupçon que Dieu existe jusqu'à ma conversion. Jusqu'à la minute avant ma conversion, le 18 juillet 1979. Et j'ai passé ma jeunesse à être un athée. J'ai fait ma première communion comme tous les petits gars du Québec. J'avais 6 ans et j'étais sûr, certain, dans mon petit cœur de petit gars, que Dieu n'existait pas. Je me suis converti. Hey, ouf! Dieu a pitié de moi. Je me suis converti le 18 juillet 1979 et Brigitte quelques jours après moi. On a servi à l'église baptiste de Chamédé dans le temps. Et en 1990, c'est-à-dire 11 ans après ma conversion, Dieu m'a appelé à aller servir à Sept-Îles. Pourquoi Sept-Îles? Je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Il y a des Autochtones à Oka qui n'étaient pas loin de Laval, où est-ce que je demeurais. Mais là, Dieu m'envoie à l'autre bout du Québec, à Sept-Îles. Merci Seigneur. Il y a du bon homard, du bon crabe, des belles crevettes. C'est la capitale des fruits de mer. Vous faites pitié ici. Donc, en 1990, en passant, j'ai jusqu'à quelle heure? Parce que moi, je peux toffer jusqu'à 6 heures à soir. Jusqu'à quelle heure? 11h30? OK. Ça fait qu'à 11h30, là, vous rouvrez la trappe, puis boum! Donc, en 1990, Dieu m'appelle, Dieu m'appelle après 11 ans de vie chrétienne, 1990, Dieu m'appelle à le servir à Sept-Îles, mais ça a pris 7 ans avant qu'on déménage à Sept-Îles. On voulait déménager à Sept-Îles. Je suis un chauffeur de truck par ma profession depuis que j'ai 18 ans, depuis que j'ai un permis de conduire. Et un chauffeur de truck, ça se place n'importe où, dans n'importe quelle ville. Il y a tout le temps d'ouvrage pour un chauffeur de truck, mais ça marchait jamais à Sept-Îles. Je n'étais jamais capable de me trouver un job là. Ça a pris 7 ans avec mon déménage. J'imagine que Dieu voulait nous enseigner la chose la plus importante pour œuvrer dans une communauté autochtone, c'est la patience. Je devais apprendre la patience. Et on est arrivé en 1990, il y avait déjà un pasteur là, il était là, ça faisait en 97, on est arrivé, pas en 90, en 97, il y avait déjà un pasteur qui était là, il s'appelle Terry Baskin et sa femme Jane. Lui, ça faisait 10 ans qu'il était dans la communauté Innu. On est arrivé en 97. Et en 2007, 10 ans plus tard, Terry et sa femme, Dieu leur a dit, c'est terminé pour vous à Sept-Îles. Pas parce qu'ils avaient vécu des difficultés, non, c'est un couple exemplaire et mais parce qu'il était en train de se brûler vraiment, vraiment se brûler. Et Dieu les a retirés avant qu'il aille mal pour eux. Et donc, nous, ça faisait déjà 10 ans qu'on était là, et Dieu a parlé à mon cœur pour que je devienne pasteur de l'Église. Moi, j'ai jamais voulu être pasteur. Toute ma vie chrétienne, c'était jamais dans mon idée. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'était pas moi. Mais ça l'est devenu. Avant que Terry parte, quelques mois avant, Dieu a placé dans mon cœur que Denis, tu pourrais être le nouveau pasteur ou un pasteur. Et ça a germé dans mon cœur pendant des mois. Et là, Terry m'apprend, il dit, je m'en vais, c'est terminé pour moi. Dieu m'avait préparé. Et donc, j'ai commencé à être pasteur en 2007. On est en 2024, ça fait 17 ans que je suis pasteur. Et aujourd'hui, à l'Église, on a des Québécois qui nous aident, vous le savez, par nos lettres de prière. Timothée et Andréane, qui viennent de Magog. J'avais fait un appel en 2011, je ne me rappelle plus les années. Et ce jeune homme-là, il avait 19 ans, il était venu me voir et dit, je pense que Dieu m'appelle à aller à Sept-Îles avec vous. Ça fait qu'ils sont en venus, lui et sa femme, Andréane, sont encore là. Ils sont très, très utiles à l'œuvre. Ils sont présentement là, ils sont dans l'assemblée à cette île. Là, il est en train de faire la louange. La louange doit être finie. Et l'autre couple, c'est Christopher et Julie. Julie, qui est la fille de Terry Baskin, le pasteur avant moi. Julie est revenue parce que Dieu la demandait encore à cette île. Elle a marié Christopher. Et Christopher, présentement, il prêche à notre église. C'est un architecte de formation. C'est encore un couple très utile avec nous. Et on a une femme d'à peu près notre âge qu'on a été volée à l'église baptiste de cette île, l'église des Québécois. Pourquoi on a été la volée? Parce qu'elle est très bonne avec l'école du dimanche. On a beaucoup, beaucoup d'enfants à l'église. Et évidemment, on a demandé la permission aux gens de cette église-là avant de la voler. On voulait pas se faire casser nos vitres. Et donc, on a ces deux couples-là et cette femme-là avec nous, d'une grande aide. Et on a aussi une jeune femme qui est professeure d'école. Elle vient de terminer son cours d'enseignante. Et là, elle a appliqué, c'est une fille de Québec, elle a appliqué dans la réserve de Maliotenam, à cette île. Elle veut être professeure avec les Autochtones, mais c'est beau. Donc, elle est arrivée, elle déménageait à Sept-Îles, puis là, elle cherchait une église. Il y a 5 églises évangéliques à Sept-Îles. C'est vraiment énorme. Mais elle a décidé de s'en venir avec nous, évidemment, parce qu'elle enseigne aux enfants et nous durant la semaine. Et ces gens-là, ils portent beaucoup de fruits pour Dieu. Ils sont précieux pour l'église et pour nous. On revient à nos moutons. Le temps presse, semer. 1 Corinthiens, chapitre 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 15. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, au verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « Ô mort! » La mort! La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, frères bien-aimés de Buckingham, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Je vais vous faire une description d'un personnage. Vous allez essayer de deviner de qui je parle, OK? Je connais un personnage et vous le connaissez aussi. J'en suis convaincu, tout le monde le connaît. Ce personnage-là, il parle avec beaucoup d'assurance. Il n'est pas populaire, mais tout le monde l'écoute et il dit vrai. Il s'adresse autant aux pauvres qu'aux riches. Son enseignement est cru par toutes les religions et même les athées. Il prêche toujours le même sermon. Même ceux qui ne pleurent jamais, c'est pas mon cas, même ceux qui ne pleurent jamais, pleurent en l'entendant prêcher. Personne ne peut le contredire, il a toujours bibliquement raison. Son message décourage, détruit l'espérance, anéantit la vie. Tout le monde le déteste et ne veulent pas le voir ou le rencontrer. Vous vous posez des questions, hein? tout le monde, sans exception, finit par être son disciple. Un jour, vous aussi, vous allez être son disciple. Savez-vous de qui je parle? Le malin? La mort! J'ai entendu la mort. La mort! On va être son disciple un jour. Dans quelques semaines, depuis quelques semaines, il y a de nos connaissances qui sont décédées. Hein? Quand on arrive à un âge dans la vie, ben ça déboule. Les gens déboulent autour de nous, ceux qu'on a connus, les plus vieux que nous. Je pense au pasteur Jeff Lorrain, qui est décédé, pasteur de mon âge, qui est décédé d'une maladie foudroyante, fauchée par la mort. D'autres personnes vont mourir, et c'est malheureusement pas fini. Beaucoup, beaucoup vont mourir. Ça a failli être mon tour en 2021. J'avais un cancer colorectal. Ça a été découvert comme ça, par hasard. Dieu le savait. Mais moi-même, je ne savais pas que j'avais ça. J'avais aucun symptôme. Puis à un moment donné, on détecte ça. Et j'ai demandé au chirurgien qui m'a opéré, qui m'a enlevé la bébite. J'ai demandé j'avais aucun symptôme, puis si on n'avait pas découvert ça dans moi, il me resterait combien de temps à vivre? Il me dit 1 an et demi. Je serais pas là. Là, je serais pas là. Je serais cimetière à Buckingham, peut-être, je sais pas. Mais un jour, ça sera votre tour aussi, comme moi aussi. Denis, ce que tu enseignes le matin, c'est pas mal lugubre. Un petit peu de quelque chose de positif, Denis, le matin. Mais le message qu'on vient de lire dans Corinthiens, c'est un immense encouragement. Qu'après la mort, il y a la résurrection. Les non-croyants, eux, n'ont aucune espérance devant l'éternité. Aucune espérance de revoir un jour leurs proches décédés. Je suis allé, comme vous d'ailleurs, je suis allé à plusieurs services funéraires des gens qui se disaient pas chrétiens et les survivants aussi se disaient pas chrétiens. Et quand vous allez dans un service funéraire avec ce genre de non-croyants, vous voyez dans leur figure... Ils sont bien, bien, bien intrigués et bien tristes. Mon père qui est dans la boîte, je ne le reverrai plus jamais. Jamais, jamais. Hey, ça, c'est triste. C'est quelque chose. Et Paul dit aux Thessaloniciens qu'après leur avoir parlé de la résurrection, Paul leur dit, « Consolez-vous donc les uns les autres. » Évidemment, j'ai vu mon père dans la boîte. J'ai vu ma mère dans la boîte. Mais, il était chrétien. Il était sauvé. Et moi, je suis sauvé. Et j'ai l'immense privilège et bonheur de savoir qu'un jour, je vais les revoir. Hey, c'est quelque chose. Le chapitre 15 de 1 Corinthiens commence avec la résurrection, les premiers versets. Chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, Paul rappelle aux Corinthiens l'évangile que Paul leur avait annoncé, qu'ils ont reçu et dans lequel ils demeurent fermes et par lequel aussi ils sont sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de la mort éternelle, du châtiment de Dieu, de l'enfer et aussi sauvés de la mort physique grâce à la résurrection. Et comment ils ont été sauvés? En croyant au Messie promis, à Jésus le Sauveur, l'agneau de Dieu crucifié pour leurs péchés, mais au verset 12 que je mets à l'écran, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? » Comment ça se fait qu'il y en a qui disent ça? Il y avait parmi eux, dans l'Église, des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de changement avec ces gens, des gens de ce temps-là. Il y a des gens aujourd'hui, dans nos Églises, qui disent « Hey, ça, non, moi je ne crois pas à ça. Ça, je ne crois pas à ça. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est écrit là-dedans. » Je veux dire. Mais l'Église n'a pas vraiment changé depuis le temps des apôtres. Et Paul affirme qu'il y a une résurrection, toujours à l'écran, au verset 20 à 23, « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, il est, Jésus, il est les prémices de ceux qui sont décédés. » Les prémices, qui veut dire, quand les légumes poussent, les premiers légumes que tu as. Évidemment, durant l'été, il va y avoir beaucoup, beaucoup de légumes qui vont pousser, mais là, les premiers blédaines, les premiers choux, c'est les prémices. Donc, Jésus, il est les prémices de ceux qui sont décédés, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Merci Seigneur qu'il y a la résurrection et que tu vas nous ressusciter de la même manière que Jésus est ressuscité. Ouh, quel encouragement! La mort! On s'en sacre-tu? Il a beau essayer de nous faire peur, là, avec sa grande faux. Non, on va ressusciter. Verset 19. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Pourquoi? Pourquoi? Ben justement, si on ne croit pas à ça. Si on ne croit pas à la résurrection, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais non, nous sommes les plus heureux, parce qu'on croit à ça. Revenons au passage de ce matin, on ne relira pas les versets 50 à 58, mais ces versets-là ont pour but de nous encourager, parce que la mort, c'est pas rigolo, hein? Il y en a qui décèdent d'une façon difficiles et longues dans la souffrance, etc. Mais il y en a d'autres, c'est instantané. L'autoroute de la mort. Je m'en venais hier, on s'est envenu, on avait une réunion de famille, la famille à Brigitte, à Saint-Scolastique. Et on s'est envenu, on est arrivé ici à 1h du matin, puis je roulais sur la 50, puis j'avais vu les aux nouvelles, l'autoroute de la mort. Puis là, Seigneur, pas de suite, pas de suite! Je voulais vraiment m'en venir parmi vous ce matin, et Seigneur, il a protégé. Mais rappelez-vous ce personnage-là que j'ai lu au début, quand j'ai commencé à prêcher tout à l'heure. Il n'est pas populaire, mais tout le monde l'écoute et il dit vrai. Son enseignement est cru par toutes les religions et même les athées. Il prêche toujours le même sermon, la mort. Même ceux qui ne pleurent jamais pleurent en l'entendant prêcher. Personne ne peut le contredire. Il a toujours bibliquement raison, la mort. Son message décourage, détruit l'espérance, anéantit la vie. Tout le monde le déteste et ne veut pas le voir ou le rencontrer. Tout le monde, sans exception, finit par être son disciple. Un jour, vous aussi, vous allez être son disciple. À moins que Jésus revienne. Ça, on ne sera pas le disciple de la mort. Mais dans la mort, notre destinée à nous, elle est glorieuse. Notre destinée. Verset 51-53, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Paul rappelle aux Corinthiens, j'ai pas fini mon verset, oui, « Car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. » Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est un cours de diction, ce verset-là. Oui, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Paul donc rappelle aux Corinthiens que le corps ressuscité ne sera pas exactement comme le corps qu'on a présentement. Mais il sera glorieux. On va avoir un corps glorieux. Le corps humain se renouvelle à tous les 7 ans. Les cellules, là, bon, ça se renouvelle à tous les 7 ans. Mais le vieillissement arrive, les rides, la peau molle, comme vous pouvez le constater. Tomalou, j'ai mal là. Tomalou. C'est là qu'on est. Les plus jeunes, attendez, vous allez comprendre, c'est quoi Tomalou? Surtout le matin quand on se lève. Comme la semence qu'on met en terre. Est-ce qu'il y a des cultivateurs ici dans la salle, des jardiniers? Vous faites un jardin, vous faites des jardins peut-être. Vous prenez un grain de bledaine, il est tout ratatiné. Si vous arrachez un grain de bledaine après un épi que vous venez d'arracher après le plant, l'épi est tout vert et bon, et là vous arrachez un grain de bledaine, il ne fera pas un plant de bledaine. Il va pourrir de la tête. Il faut que ce grain-là ratatine. Il faut qu'il chasse. Les chemises de l'archiduchesse. Il faut qu'il chasse. Comme moi. Donc, comme une semence qu'on met dans la terre, notre corps va conserver son identité. Mais va recevoir une forme merveilleuse, améliorée, ce qui va nous arriver dans la résurrection. Autrement dit, on a des corps ratatinés par les difficultés de la vie, les souffrances, la maladie, le vieillissement. Mais quand on va ressusciter, On ressuscitera pas ratatiné. Wow! On va péter le feu! Des athlètes olympiques! Mais quand même, on va quand même se reconnaître, mais peut-être en disant, « Hey, t'es-tu bien Denis Maisonneuve? » Il me semble que t'étais plus magané que ça. Mais on va avoir des corps glorieux. Et verset 51 dit, « Voici, je dis un mystère. » Un mystère, c'est pas comme un mystère qu'on entend aujourd'hui. Un mystère. Non, un mystère dans le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui autrefois était caché et inconnu et maintenant révélé. C'est le sens du mot mystère de l'Ancien Testament. Et dans Thessaloniciens, je vous lis le verset, « Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, Paul croyait que Jésus revenait de son époque, mais on peut dire la même chose aujourd'hui, comme Paul le disait, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, peut-être après-midi, demain, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, mon père, ma mère et les autres chrétiens, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu, mon père et ma mère. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. J'imagine la scène, mon père et ma mère sont dans le cimetière Sainte-Thérèse à Laval, à Sainte-Thérèse, au nord de Laval. J'imagine la scène, là, on est enlevé, et là, on monte dans le ciel, puis là, à côté de moi, mon père et ma mère. Hey! Wow! Quelle affaire, quel événement! Ouf! Tous les chrétiens de tous les âges sortiront des cercueils. Et nous serons enlevés, tout le monde ensemble, on va être même changés en un clin d'œil. Leur corps des gens qui ressuscitent seront changés de corruptibles à incorruptibles. Et la même chose pour nous. Et le verset 50 à 57, qu'on a lu tout à l'heure, 54 à 57, Paul remercie Dieu de changer nos cœurs, nos corps, d'une façon merveilleuse dans la résurrection. Et Paul remercie Dieu d'avoir vaincu le péché et la mort pour nous et de nous donner la victoire sur la mort. Le personnage de tout à l'heure, là, la mort, je regrette la mort, là, tu peux aller te habiller. On est victorieux, on est vainqueur, et on ne sera plus ratatiné. Non, c'est très, très encourageant. Verset, oh, je l'avais, je m'excuse, je ne l'ai pas mis à l'écran. 15:58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Donc, en attendant ce jour merveilleux, le temps presse, semez! Semez! Semons la parole de Dieu dans les cœurs de ceux qui nous entourent pour qu'ils participent, eux aussi, avec nous, la dernière résurrection finale. Je vais avancer un peu dans mon message pour en arriver. J'avance pas beaucoup. Regardez, j'avais un autre verset. Vous le lirez à la maison. 1 Pierre 1:23. Et le verset de ce matin. Je me fatigue à le contenir et je ne le puis. Je suis pas capable de me retenir de parler de mon Sauveur. Merci Seigneur que tu as mis ça en moi. Et dans mes frères aussi, mes frères et sœurs. En parlant de semer cette semence incorruptible autour de nous, la parole de Dieu, Je vais maintenant vous parler d'un terrain que je connais bien, la réalité autochtone. J'ai pensé vous expliquer la réalité autochtone par une histoire. Il faut embarquer dans les souliers de quelqu'un pour bien comprendre ce qu'il vit. Il faut embarquer dans les mocassins de quelqu'un pour bien comprendre ce qu'il vit. Voici mon histoire. Imaginez qu'en 1850, la Chine a envahi le Québec. Le gouvernement chinois, en 1850, a défendu aux Québécois de parler français. Les Québécois ont été obligés de parler chinois, s'habiller en chinois, manger du riz avec des baguettes. Les Chinois ont volé les champs de nos ancêtres cultivateurs et leur ont défendu de vivre de l'agriculture et les ont parqués dans des secteurs déterminés, réserves, sans espoir pour leur futur. Toujours en 1850, les envahisseurs chinois ont aussi imposé de force à nos ancêtres québécois, pendant des années et des années, la religion bouddhiste, leur religion des Chinois. La religion bouddhiste imposée avec violence physique, psychologique, et accompagné d'abus sexuels. Et maintenant, 187 ans plus tard, en 2024, nous, Québécois, vivons dans un pays complètement chinois. Ça fait 187 ans que c'est comme ça. De millions de Québécois que nous étions à l'époque, nous ne sommes plus que quelques milliers. On n'a toujours pas les yeux bridés, ni la peau jaune. On se fait regarder drôlement par les Chinois dans la rue. On n'a pas les meilleurs jobs, ni une bonne santé. Et nos enfants n'ont pas beaucoup d'espoir pour l'avenir. Mais on se rappelle que nos grands-parents nous ont raconté comment vivaient leurs grands-parents. À eux, avant 1850, avant que la Chine envahisse le Québec, nos ancêtres parlaient français. Ils mangeaient de la tourtière, du ragoût de pâte de cochon, avec des fourchettes, pas des baguettes. Ils s'habillaient avec des chemises à carreaux et des ceintures fléchées. Ils cultivaient des légumes sur leur terre, dans le fond d'un rang de campagne. Ils allaient à la messe à tous les dimanches. Puis, savez-vous quoi? Ils mangeaient une espèce de pain en rond. À tous les dimanches, ils mangeaient ce pain-là en rond. Ils faisaient du sirop d'érable. Ils dansaient des sept carrés dans leur maison. Il n'y avait pas des noms comme Li, Wong, Yang, Cheng, mais il y avait des noms de famille comme Thibaudot, Tremblay, Gagné, Ouellette, Bélanger, Lavoie, Bouchard, Cloutier, Maisonneuve, Carrier, Charette, 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 Duguay. On pourrait en nommer beaucoup d'autres. Donc, depuis 1850, après cinq générations, nous, Québécois, on a perdu peu à peu notre culture québécoise, notre style de vie, notre langue et surtout notre identité. Comprenez-vous ce que je viens de vous dire? Pouvez-vous vous mettre dans les mocassins d'un hinou? C'est un peuple très blessé par l'histoire. Ils recherchent leur identité. Ils veulent seulement que vous compreniez leur détresse. Et je suis convaincu que vous les aimez. Pourrais-tu fermer le son, s'il vous plaît? Il y a un merci beaucoup. Donc, c'est un peuple blessé par l'histoire qui recherche son identité. Ils veulent seulement que vous compreniez leur détresse. Et je suis convaincu que vous les aimez. L'Église et nous a encore besoin de votre aide. Je vous explique. Ma femme puis moi, on a 67 ans. Ma santé n'est pas vraiment solide. J'ai eu un cancer colorectal. J'ai présentement un petit cancer à la prostate. Ça va bien, mon affaire. Bon, je dis pas ça pour me plaindre, regarde. Ça va bien, là. Il y en a qui souffrent bien plus que moi. Puis il y en a qui souffrent depuis des années. Puis il y en a qui souffrent depuis leur jeunesse. Je fais pas pitié. On espère trouver, avec l'aide de Dieu, un couple pastoral qui pourrait prendre la relève. Et c'est ça que je vous demande comme aide. Pourriez-vous prier pour ce besoin particulier de l'Église et nous, comme bien d'autres églises? Il y a bien des églises dans l'association, la BEC, il manque des pasteurs dans bien des églises. Mais moi, je parle pour ma paroisse. Pourriez-vous prier pour ce besoin particulier? C'est de cette aide-là que l'Église et nous a besoin. C'est pas parce qu'on veut quitter Ouachat, la communauté Innu de cette île. On veut être à l'Église Innu encore pour plusieurs années, le temps d'accompagner un couple qui arrive, un couple pastoral qui arrive. Comme Terry et Jane Baskin le font avec nous, qui nous ont accompagnés. Peut-être que ce couple que Dieu a en réserve pour l'Église et nous, peut-être qu'il est ici ce matin. Ou peut-être non. C'est correct. Si Dieu appelle personne ici ce matin, c'est correct. C'est Dieu qui mène sa chaloupe. Mais peut-être que Dieu appelle quelqu'un ici ce matin. Je lance quand même un filet de pêche. Est-ce que Dieu appelle quelqu'un ici ce matin pour le servir parmi la nation Innu ou ailleurs? Ça peut être une autre communauté autochtone. Est-ce que Dieu t'appelle? Il y a 34 ans, en 1990, j'étais assis à l'église baptiste évangélique de Chomedey. Il me reste 10 minutes. J'étais assis, comme vous, à l'église baptiste évangélique de Chomedey. Ça faisait 11 ans que j'étais chrétien. Quand j'étais petit gars, quand j'étais athée, pur et dur, à la maison, Memire vivait avec nous. Memire, qui est né au lac des Îles. Savez-vous c'est où le lac des Îles? Levez la main. Le lac des Îles, pas loin de Maniwaki, mais pas loin du camp des Bouleaux. Elle est née dans le bois, ma mère. On la gardait à la maison, elle était veuve, et dans ce temps-là, il n'y avait pas de foyer de personnes âgées. On gardait les vieux à la maison. Les enfants gardaient hébergeaient leurs parents. Donc, ma mère est au bout de la table. J'ai grandi mon adolescence avec ma mère, qui est née pas loin de Maniwaki, d'une maman autochtone, mais ma grand-mère, ma mère, jamais, jamais, elle parlait de ses origines. Jamais. Il faut pas. Il faut pas qu'elle en parle. Parce que elle elle savait que dans cette époque-là, on disait qu'un Indien, c'est imbécile, c'est pas instruit, c'est cochon, c'est salaud, c'est stupide. C'est ça qu'on propageait depuis des décennies. Les Autochtones, c'est ça. Et ma grand-mère, qui a pris le train du Nord, Curé-Lebel, de Mont-Laurier jusqu'à Montréal, dans le Mile End à Montréal, vous savez peut-être pas c'est où le Mile End, mais je sais c'est où le Mile End à Montréal, c'est le bout de le train du Nord du Curé-Lebel. Et ma grand-mère est arrivée à Montréal, elle était jeune femme, elle a arraché son identité. Pour pas se faire achaler, pour pas se faire écœurer. Donc, ma mère est au bout de la table, elle est vieille, puis moi, ça m'intrigue. C'est quoi sa jeunesse? Comment qu'elle a vécu? Elle est née dans le bois. J'ai appris 15 ans après sa mort par ma tante qui est sa fille, qui est la sœur de ma mère. J'ai appris par ma tante Pierrette que ma mère, elle parlait sa langue, Anishinaabe. Tabarouette. J'ai appris ça 15 ans après sa mort. Donc, en 1990, 11 ans après ma conversion, on était full pin impliqués dans notre église, à planche, 100 000 à l'heure. Et là, Daniel Marcoux, qui était le pasteur du temps, il dit à Murray Héron, « Monsieur Héron, voulez-vous venir en avant, s'il vous plaît? » Monsieur Héron était à la retraite, était quand même assez âgé à cette époque-là. Monsieur Héron, voulez-vous venir en avant? Il avait été notre pasteur au début de notre vie chrétienne. Venez nous parler de la fin de semaine que vous avez passée à Sept-Îles, la semaine passée, à la fête du travail. Monsieur Héron arrive en avant. Moi, je suis assis dans la salle, dans l'église. Monsieur Héron raconte, je suis allé la fin de semaine passée là, à Sept-Îles, invité par un pasteur, Terry Baskin. Et il explique que le pasteur avait fait un genre de camping dans le bois avec des Inuits, des familles, des adultes, des enfants. Et M. Héron avait été invité parce que M. Héron, c'était un évangéliste hors pair. Et M. Héron raconte ça, là, il a été à Sept-Îles, il a prêché à des adultes, des enfants. Moi, je suis assis là, je suis transporté au plafond. Une chance, il n'y avait pas de ventilateur à l'époque. Vraiment, vraiment, là, Dieu m'a appelé. Bang! Je me suis converti. Bang! Dieu m'a appelé. Bang! Et vraiment, il me reste 5 minutes. Dieu m'a appelé. Et là, après la réunion, j'ai été voir M. Héron. M. Héron, ça me prend absolument un numéro de téléphone là-bas. C'est trop bizarre ce que je ressens dans moi. Et je ne suis pas un genre charismatique en passant. Ces genres de choses-là, c'est pas mes journées, mais je l'ai subi. Et le lundi, j'appelle Terry Baskin, je dis « Bonjour, je m'appelle Denis Maisonneuve. Monsieur Héron, hier, a parlé de sa visite chez vous et je suis bien intrigué. J'aimerais aller vous voir. » Terry me répond, il dit « Oui, viens-t'en, viens nous voir, viens nous visiter. » « OK, je vais venir à l'Action de grâce, parce que pour aller à Sept-Îles, ça prend une journée. Pour revenir, ça prend une autre journée. » Et pour rester là, ben on peut pas arriver le soir puis repartir le lendemain matin. Ça prend une fin de semaine de 3 jours pour être là au moins une journée entre les deux. Et donc, on est parti à l'Action de grâce au mois d'octobre 1990 avec nos enfants qui étaient petits. On arrive à cette île, on est parti à minuit soir de Laval, parce que les enfants s'adorent la nuit, ça fait que, let's go, on en profite, on roule la nuit, puis j'étais un chauffeur de truck, il n'y a pas de problème, une Red Bull, glou glou glou, on roule. Ça n'existait pas dans le temps. Mais, on arrive à 10h du matin, pas à minuit, on arrive à 10h du matin chez Terry Baskin, on parle ensemble, on se connaissait pas, vraiment, on était vraiment différent, moi puis lui. Lui qui est un anglophone vraiment, vraiment British, Canadian, puis moi, séparatiste jusque dans le bout des doigts. J'en fais pas une religion en passant, là. Mais, vous comprenez, les deux personnalités vraiment, vraiment différentes. Mais en 10 ans qu'on était ensemble, jamais, jamais on s'est pogné aux cheveux. Jamais on a eu l'ombre d'une petite discussion orageuse. Jamais on s'est tout le temps bien entendu. Dieu a fait un miracle entre moi et Terry. Mais en tout cas, on est chez Terry le matin, puis là, un petit peu fatigué, puis nos enfants, à peu près la même âge que leur enfant. Et là, Terry, il me dit, après le dîner, si tu veux, on va aller dans la réserve. Certainement, on va y aller. Je suis pas venu ici pour rester dans ton salon. On y va. Après le dîner, on embarque dans le char, on viraille dans la réserve. Il nous montre, là, ça, c'est l'église catholique, ça, c'est le dépanneur. Puis là, il arrête à un endroit, il dit, là, dans cette maison-là, le monde aime la parole de Dieu. Ils sont pas chrétiens, ils sont pas sauvés, mais ils aiment beaucoup la parole de Dieu. On rentre. Ça fait, OK, on rentre. La minute que j'ai passé le cadre de porte, j'ai eu le sentiment que je revenais à la maison. Je revenais à la maison. Un autre affaire bizarre. La conversion, bang! L'appel, bang! Je rentre dans une maison inou, bang! Je reviens à la maison. Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est les trois seuls bangs qu'il y a eu dans ma vie. Ben, quand j'ai rencontré Brigitte, c'était un éclair. Oh! Quand j'étais jeune, là, quand les hormones ont commencé à me frétiller en dedans de moi, 13-14 ans, je voulais m'en aller loin, loin dans le nord, dans le bois, pour aller me trouver une Indienne, la marier. C'était mon rêve de jeunesse. Mais quand j'ai vu Brigitte, secondaire 5, la mâchoire à terre, wow! Quelle belle fille, puis quelle bonne personne d'une famille de 14 enfants. On était hier avec les 14, on fêtait un de ses frères, il a pris sa retraite, puis il a 60 ans. Une famille unie, deux, trois sont chrétiens, mais quand même, une famille unie, puis hey, j'arrive dans cette famille-là, wow, je suis aux anges. Donc, aussi, je t'ai rendu dans mon histoire. Ah oui, les trois bangs, puis l'éclair, le tonnerre, quand j'ai connu Brigitte. Donc, là, la fin de semaine se termine chez Terry, puis là, avant de partir, je dis à Terry, moi, là, je reviens ici, c'est sûr, 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 je reviens ici. Je sais pas quand, mais je reviens ici. C'est trop bizarre qu'est-ce qui se passe dans moi. Donc, oui, on a répondu à l'appel de Dieu, Brigitte puis moi, de s'en aller à cette île. Ça fait maintenant 27 ans qu'on est là. Et si Dieu t'appelle pas, c'est bien correct. Il faut respecter la volonté de Dieu. Il faut pas forcer la volonté de Dieu. Parce que moi, j'ai même pensé à un moment donné, parce que j'oubliais pas, ça a pris 7 ans avant de m'en aller à cette île. Puis là, je me disais en dedans de moi-même, hey, à tous les jours, je pensais à cette île. Pendant des années, les 7 ans là, avant que je déménage, à tous les jours, je pensais à cette île. Je me suis même demandé, je me suis dit, je suis en train de dérailler, je suis en train de devenir fou. Peut-être c'est un power trip d'Indien que je veux faire. Je veux juste retrouver mes origines. Oh, c'est pas un appel. Ça doit pas. Regarde, ça fait 7 ans, je veux déménager, puis ça marche pas. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ah, oh, ça doit pas être un appel. Mais je vais vous conter un clin d'œil de Dieu. Il est ennemi. Je prends mon temps. Merci de me donner de l'overtime. Bon, ça fait peut-être 6 ans, là, que, à toutes les années, je retournais à cette île, à la fête du travail, faire le camping dans le bois, gratter la guitare dans le bois pour faire chanter la louange, faire des histoires aux enfants inoux, puis tout ça, fraterniser avec les adultes, puis à tous les ans, on y retournait à la fête du travail, puis je revenais tout le temps triste. J'ai pas encore trouvé de job. Oh! Puis là, rendu vers la 6e ou 7e année, j'étais à Montréal. Là, j'avais lâché de chauffer des trucks. J'étais à sa construction. J'étais manœuvre sur la brique pour des bricoleurs. Et là, ma job, c'était de faire des batchs de mortier. J'avais un mixeur. Les femmes, peut-être, vous connaissez les mixeurs dans faire des gâteaux. Mais pour des badges de mortier d'un gros mixeur, puis là, il y a un truck qui vient domper 20 tonnes de sable à côté du mixeur, et il y a 2-3 palettes de poches de ciment, de mortier, et une chaudière dans le mixeur, une chaudière d'eau, puis une poche de mortier, puis 14 pelletées de sable. Je pelletais 20 tonnes de sable par semaine. Et là, on est jeudi, c'est un job. Vendredi soir, on repart à cette île. Une autre fête du travail à cette île, espérant trouver un job. Puis là, je me demande, je dois être fou, non, c'est un power trip d'Indien, ça ne doit pas être un appel de Dieu. Je suis vraiment confus. Il y a un truck qui recule, comme à tous les jeudis. Le truck recule, il dompe 20 tonnes de sable à côté de mon mixeur. Le chauffeur débarque pour me faire signer la facture. Je signe. Pendant que je signe, il me dit dans mes oreilles, « Par hasard, ton boss aurait-tu fait une soumission pour une job à Sept-Îles? » Il me dit le mot « Sept-Îles ». Un gars, je connais pas. Il ne sait pas que demain soir, on repart pour Sept-Îles. C'est pas le plus effrayant. Je dois vous instruire que, savez-vous, c'est où Tadoussac? C'est la rivière Saguenay, là. Tadoussac, là, c'est à mi-chemin entre Montréal et Sept-Îles. C'est mi-chemin. Entre Tadoussac et Blanc-Sablon, qui est au bout du Québec, au bout du fleuve Saint-Laurent. Du fleuve Saint-Laurent jusqu'à Coudjouac, qui est le top du Québec. C'est grand, là, cet espace-là. Il rentre 3 fois la France là-dedans. Peu importe l'endroit, dans cet endroit-là, peu importe l'endroit où que vous allez creuser, jamais vous allez voir de la terre. C'est du sable. Ce n'est que du sable. Le gars, il me dit, ton boss, par hasard, a-tu fait une soumission pour un voyage de sable à cette île? C'est comme livrer de la neige aux Esquimaux. Ça n'a pas de bon sens. Combien ça va coûter à mon boss le voyage de sable, le fuel, les repas, les motels du chauffeur? Là, le chauffeur arrive sa job à cette île, il débarre son panneau, il lève la boîte, il dompe 20 tonnes de sable sur du sable. Le clin d'œil de Dieu, le clin d'œil merveilleux. J'ai compris que je ne faisais pas de la folie. Dieu m'appelait. Au break, je vais voir le boss. Il travaillait avec nous, il était bricoleur. Je vais voir le boss, je dis, par hasard, as-tu fait une soumission pour une job à cette île? Il me regarde. Et comme dans le temps des insolences des téléphones de texte à corps, il me dit, « Oui, oh non, où est-ce que tu as pris ça? Si tu es de fou là, t'es un pop, 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 pop de fou! » Avec un mot ecclésiastique. Le boss, il me dit ça. Le chauffeur de truck, il me dit, ton boss a-tu fait par hasard une soumission pour un voyage de sable à cette île? Ah! C'est un miracle! C'est un clin d'œil merveilleux de Dieu. C'est peut-être même un ange, ce chauffeur-là. En tout cas. Mais Dieu vous demande de prier pour une relève qui pourrait nous remplacer éventuellement, parce que, regarde, on est presque rendu au bout du rouleau. Mais que c'est pas parce qu'on est écœuré ou qu'on est tanné, non. Si on avait 25 ans, 30 ans, 40 ans, ça serait bon, mais il faut vivre avec la réalité que Dieu nous donne. Mais en tout cas, c'est ça que je voulais vous partager, surtout, c'est que priez pour une relève à cette île, que Dieu envoie cette relève-là. Peut-être par un miracle, comme moi j'ai été victime. Mais merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. Je vais prier, si vous le permettez. Je vais juste fermer mon ordi. Merci Seigneur Jésus, merci de cet avant-midi que tu nous as donné ensemble. Merci Seigneur pour toutes ces choses merveilleuses que tu as mis dans nos vies, à Brigitte puis moi. Merci Seigneur pour la communauté Innu, nos frères et sœurs qu'on aime beaucoup là-bas, nos frères qui souffrent, nos frères qui sont blessés, nos sœurs aussi qui sont blessées. Seigneur, prends soin d'eux, prends soin d'elles. Seigneur, pourvois pour une relève, Seigneur, qui va venir de toi. Seigneur, suscite cette relève-là. Seigneur, appelle, Seigneur, un couple, peut-être deux couples. Appelle, Seigneur, parce que toi, Seigneur, c'est toi qui diriges. Et tu connais nos besoins. Merci, Seigneur, pour cette assemblée ici, l'église de Buckingham. Merci, Seigneur, pour leur fidélité envers nous, leur fidélité envers l'église Innu. Merci Seigneur pour leur amour envers nous. Et Seigneur, bénis cette assemblée, Seigneur, bénis cette église. Merci Seigneur Jésus, en ton nom. Amen.